L'ascension, elle était juste magique, quoi. À l'image du club, on a montré qu'on était présent. Maintenant, on continue, on reste et on repart le 24 avec la coupe aux grandes oreilles.
Le fabuleux destin du Paris Saint-Germain. On peut parler de miracle pour la qualification d'hier soir. 2 buts au bout du temps additionnel et une première demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans. Un nombre de nouveaux cas record depuis le mois de mai et une nouvelle inquiétude désormais partagée par les médecins hospitaliers. Nous sommes au début d'une deuxième vague de coronavirus. Oui, mais tout n'est pas encore perdu.
On est dans la phase où, du coup, on peut encore intervenir et on a des chances d'y arriver.
Dans ce journal également, nouvelle baisse en trompe-l'œil des chiffres du chômage publié ce matin. La colère des élus locaux, 233 maires agressés depuis le début de l'année. Des ministres auditionnés dans l'enquête à Beyrouth, alors que de nombreux bâtiments menacent encore de s'effondrer. Et puis visiblement, c'était dur tout ce temps coupé des autres, sur la plage déconfinée, coquillages et voluptés.
Le fait de ne pas avoir dragué pendant 2-3 mois physiquement, là on a très envie de draguer. Mais après, on respecte toujours les gestes barrières et la gêne féminine.
Évidemment. Votre invité politique après ce journal, Sébastien.
La sécurité des maires en question, l'autorité républicaine attaquée. Quelle réponse? La députée européenne Les Républicains, Nadine Morano, est mon invitée dans un quart d'heure. Très belle matinée avec nous, il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le Paris Saint-Germain retrouve donc les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis un quart de siècle. Marquinhos et Choupo-Moting ont délivré des Parisiens mal engagés hier soir face à Bergame. But à la 90 et 93e minute. On connaîtra ce soir le futur adversaire du PSG pour une place en finale. Mais les supporters, Julien Froment, rêvent désormais en grand.
Je pense qu'on va gagner. On va gagner, c'est la bonne.
Ce supporter du Paris Saint-Germain en est sûr. Avec cette qualification obtenue à l'arraché, il ne peut plus rien arriver à son club. Un avis partagé par Kevin.
L'ascension, elle était juste magique, quoi. À l'image du club, à l'image des joueurs, on a montré qu'on était présent. Voilà, maintenant on continue, on reste. Et on repart le 24 avec la coupe aux grandes oreilles.
Avant de repartir de Lisbonne avec la Ligue des Champions, Paris va déjà devoir se défaire mardi prochain, soit des Espagnols de l'Atlético de Madrid, soit des Allemands de Leipzig. D'ici là, l'état des troupes est plutôt encourageant. André Di Maria, suspendu, fera son grand retour. Quant à Kylian Mbappé, très convaincant hier, il a déjà retrouvé ses jambes de feu. Au rayon des inquiétudes, l'Italien Marco Verratti ne devrait pas être disponible. Et surtout, le gardien Keylor Navas, si précieux hier, est sorti sur blessure, touché à la cuisse droite. Paris a 6 jours devant lui pour guérir les petits bobos des uns et des autres et aborder ce rendez-vous avec l'histoire. Lisbonne, Julien Froment, Europe 1.
Le rendez-vous est pris pour cette demi-finale, donc ce sera mardi soir et vous pourrez bien sûr la suivre sur Europe 1. L'autre grand titre ce matin face au coronavirus, ces chiffres qui continuent d'inquiéter. 2500 nouveaux cas en 24 heures. Le seuil d'alerte est dépassé dans plusieurs départements.
Certes, on fait beaucoup plus de tests, mais le nombre de résultats positifs augmente plus vite que le nombre de dépistages et les médecins hospitaliers, Victor Dolande, parlent très clairement désormais de deuxième vague.
C'est très dur pour le grand public de le réaliser, mais on est bien au tout début de la deuxième vague. Ce cri d'alarme, il est partagé par de nombreux chefs de service en réanimation qui voient les cas se multiplier ces derniers jours. Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM, est plus prudente. Pour elle, on n'est pas dans la même situation qu'au mois de mars.
Maintenant, c'est quand même plutôt comme janvier ou février. L'épidémie était là, mais on ne savait pas. Et puis, il y avait des cas, il y avait des contaminations, mais c'était à bas bruit. Et l'hôpital n'était pas encore submergé. Mais on est dans la phase où, du coup, on peut encore intervenir. Et on a des chances d'y arriver. Parce que malgré tout, ce qui est différent également, c'est qu'on a des tests et on peut utiliser les masques, puisque maintenant, on en a.
Certes, tous les indicateurs sont en hausse, mais ils n'ont encore rien de comparable avec ce qu'on a vu au mois de mars. Avec moins de 400 personnes en réanimation, dans toute la France, on est revenu au même niveau que le 15 mars dernier. 5 jours plus tard, 1300 patients étaient dans un état grave, alors que ces derniers jours, les services de réanimation se remplissent beaucoup moins vite. On se trouve peut-être au pied de la deuxième vague, mais tous les spécialistes sont catégoriques. On a encore les moyens de contrôler la reprise épidémique.
Les clés pour comprendre la situation sanitaire avec vous, Victor Dolande.
Europe 1, 8h05.
L'actualité économique avec ces chiffres tombés il y a une demi-heure. Le chômage continue à baisser. C'est pour le deuxième trimestre selon l'INSEE.
Oui, moins 0,7%, mais attention Emmanuel Duteil, c'est une nouvelle baisse, on peut le dire en trompe-l'œil.
Oui, on pourrait résumer ces chiffres ainsi, c'est le calme avant la tempête. C'est simple, le chômage baisse pour une seule raison, le confinement. C'était en effet quasi impossible de chercher un emploi. Les demandeurs d'emploi n'ont donc pas été considérés en recherche active d'emploi et donc comptés dans les chiffres du chômage. Ce sont les femmes qui ont le plus profité de cette baisse technique. Mais le plus dur est devant nous et ça se voit déjà dans les chiffres quand on regarde le détail, puisque le nombre de personnes qui souhaitent trouver un emploi sans être considérées comme chômeurs s'est envolé sur le trimestre écoulé. Il est même au plus haut depuis 2016. Autre fait très symbolique, le nombre inédit de salariés qui se sont trouvés en situation de chômage partiel ou d'arrêt maladie pour garde d'enfants, là encore à cause du confinement. Avec les plans sociaux qui vont se multiplier, le nombre de demandeurs d'emploi devrait exploser dans les mois à venir. Et l'objectif de faire reculer le taux de chômage sous la barre des 7% à la fin du quinquennat est aujourd'hui totalement inatteignable.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous en direct, d'être économiste à l'OFCE. Emmanuel Dutheil le disait, c'est le calme, ce chômage qui baisse en trompe-l'œil, mais c'est une tempête qui nous attend dans les semaines, les mois qui viennent.
Alors une tempête, oui, on devrait avoir une très forte augmentation du chômage dans les prochains trimestres. Alors d'une part parce que globalement ce chiffre-là n'est pas le bon chiffre, c'est-à-dire que globalement, comme il a été rappelé, un grand nombre de personnes n'ont pas été en recherche active, donc ils vont être remis au chômage de façon un peu technique dans le prochain trimestre. Et puis il va y avoir des fortes destructions d'emplois à venir. Et donc, ces deux éléments vont faire que globalement, et aujourd'hui, on pourrait considérer que le chômage se situe plutôt aux alentours de 8,5 au lieu de 7% comme indiqué ce matin. Donc, il y a 1,5 déjà lié à ces éléments techniques et sans doute une augmentation assez forte du chômage dans les trimestres encore d'à peu près d'un point. Donc, on devrait se situer aux alentours de 11 points de chômage d'ici la fin de l'année.
Un chômage déjà aujourd'hui à 8,5%, dites-vous. Bruno Le Maire annonce ce matin dans le journal Sud-Ouest que 3 milliards d'euros seront prévus dans le plan de relance pour aider les PME à faire face. Les dispositifs annoncés jusqu'ici par le gouvernement, ils n'épongeront pas toute cette casse sociale?
Alors, il faut le faire. Donc, globalement, on peut dire que le gouvernement va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va falloir aider les entreprises, effectivement. On peut dire que pendant le confinement, le gouvernement a plutôt aidé le pouvoir d'achat avec le chômage partiel en maintenant le revenu d'un grand nombre de salariés. Malheureusement, ça n'a pas complètement absorbé tout le coût pour les entreprises. Donc, il va falloir faire un effort aussi du côté des entreprises. Sinon, ces dernières vont licencier massivement. Est-ce que 3 milliards, ça peut suffire? Ça, c'est extrêmement difficile. On pense qu'il en manque un tout petit peu d'après nos évaluations. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et on fera, il va falloir bien cibler aussi sur un certain nombre d'entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui doivent être aidées, c'est un certain nombre. C'est-à-dire celles qui auraient dû normalement se maintenir et avoir une bonne situation hors Covid. Il y a des entreprises qui de toute manière n'auraient pas pu passer cette période-là même sans le Covid. Et donc ouais. Il va bien falloir cibler ces entreprises-là.
Merci beaucoup. Merci Éric Heyer, économiste à l'OFCE. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Il est 8h09, la suite du journal sur Europe 1. Sébastien Krebs, Théo Manval.
Et la colère des maires à présent face aux agressions qui se multiplient. C'est une information Europe 1. Un suspect est en garde à vue pour avoir frappé au visage la semaine dernière l'édile de Saint-Philippe-d'Aiguille en Gironde dans une affaire de tapage nocturne. Diane Berger, c'est une agression de plus dans une liste qui commence sérieusement à s'allonger pour les élus locaux.
Oui, car l'affaire de Saint-Philippe-d'Aiguille rappelle beaucoup celle de Croisy, dans le Pas-de-Calais. Vendredi dernier, le maire de la commune intervient dans une affaire de tapage nocturne. Un homme le bouscule, le fait tomber. L'élu doit passer à l'hôpital. La veille, c'est à Port-Bail, dans la Manche. Le maire informe des campeurs qu'ils n'ont pas le droit de s'installer sur la plage. Il se fait frapper. Et il y a 2 semaines, dans l'Isère, des jeunes jouent avec des feux d'artifice à Miribel-les-Échelles. Le maire essaye de les maîtriser. Dans l'altercation, un des explosifs le brûle. 7 jours d'interruption temporaire de travail. Alors, sans statistiques complètes de l'année 2020, difficile de conclure dès maintenant qu'il y a plus d'élus agressés qu'avant, mais l'Association des maires de France recense déjà 233 cas depuis le début de l'année.
Diane Berger pour Europe 1.
Alors, quelle réponse face à ces violences? Et quand l'autorité républicaine est attaquée, l'eurodéputée LR Nadine Morano est mon invitée politique dans 5 minutes sur Europe 1.
Et toujours au volet politique, 3 semaines à peine après l'apparition de son nouveau livre, Nicolas Sarkozy en tête des ventes pour Le Temps des Tempêtes. Déjà 213 000 exemplaires vendus et une tournée de dédicaces en ce moment qui génère toujours autant de frénésie.
Oui, l'ancien président de la République était en terrain conquis hier après-midi à Toulon, à la librairie Charlemagne. Et c'est Claudia Bertram qui l'a suivi.
Nicolas, 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 L'ancien président est accueilli par un véritable fan club, au premier rang duquel Sarkozette 83, comme l'indique son t-shirt floqué. Pascal, de son vrai nom, ne cache pas son émotion.
Là là, comme je suis contente. C'est notre rockstar à nous, hein. C'est notre président. Et la France a plus que jamais besoin de lui.
Autre sarkoziste inconditionnel, Alice, qui a patienté près de 5 heures devant la librairie pour être l'une des premières à faire dédicacer son livre.
J'ai toute la série Passion, enfin tous les livres, je viens les faire dédicacer. C'est quelqu'un qui manque beaucoup à la France, enfin moi je trouve.
Et ils sont nombreux à profiter de leurs quelques secondes de face à face pour en faire part directement à l'ancien président.
Revenez le plus tôt possible, c'est un homme exceptionnel.
Merci.
Il a une pêche d'enfer, il faut le faire revenir.
Nicolas Sarkozy sourit poliment sous son masque.
C'est l'expression d'une inquiétude et d'une fidélité. J'ai gardé un lien avec les Français et c'est très important pour moi ce lien, mais de là à me replonger dans la vie partisane, non.
Pas de retour en politique prévu donc, mais Nicolas Sarkozy va continuer les séances de dédicaces avant de s'atteler à un tome 2. Toulon, Claudia Bertram, Europe 1.
Il est 8h11.
Au Liban, 10 jours après l'explosion meurtrière, plusieurs ministres et anciens ministres seront auditionnés demain par la justice qui enquête sur ce stock de nitrate d'ammonium qui a causé la catastrophe.
La ministre française de la Défense, Florence Parly, sera à Beyrouth cet après-midi alors qu'on continue sur place d'évaluer les dégâts plus d'une semaine après. Des équipes d'ingénieurs parcourent les immeubles encore debout pour évacuer les habitants dont les logements sont trop fragiles. Nicolas Feldman les a suivis pour Europe 1.
Voilà, c'est ma maison à côté de ce magasin.
Viens voir.
Joseph avance dans les décombres. Au sol s'entassent les souvenirs de 3 générations. Les portes, les vitres n'ont pas résisté au souffle de l'explosion, mais les murs sont encore debout.
Je suis né ici. Mon grand-père a bâti l'appartement.
Nadine est ingénieure en génie civil. Dans une main, une carte du quartier. De l'autre, elle filme avec son téléphone, parcourt les murs de haut en bas.
On regarde tout d'abord, comme on a dit, les fissures, les poteaux et les poutres. Où il y a possibilité que l'immeuble en fait, s'effondre. Pour après, on puisse étudier chaque dégât, c'est quoi, d'où il vient, comment pouvoir remédier à ce dégât.
Le port n'est qu'à 600 mètres d'ici. Dans les maisons les plus anciennes, certaines centenaires, on pourrait croire à un bombardement. Des morceaux de plafond jonchent le sol. Les propriétaires devront attendre de longs mois avant de s'y réinstaller.
On peut envisager d'ajouter des armatures, des poutres métalliques, de recoller du béton afin de bien tenir. Il y a beaucoup de solutions. Donc ça dépend aussi de l'économie et tout ce qui est argent aussi.
Missionné par un habitant, un ingénieur se glisse sous un bloc de béton précaire. Il en ressort avec une boîte de métal à l'intérieur, des bijoux, une liasse de billets, les restes de toute une vie. Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.
La tension monte en Méditerranée entre la Grèce et la Turquie après le déploiement en début de semaine par Ankara de navires militaires pour escorter un bateau de recherche de gisements de gaz près des côtes grecques. Emmanuel Macron annonce cette nuit renforcer la présence militaire française dans la zone et appelle au dialogue.
Enfin, vous êtes nombreux à avoir retrouvé les plages cet été et avec elles les rencontres. Visiblement, pour certains, le confinement a été long.
Oui, ça vous a manqué, hein, l'amour à la plage, visiblement, enfin surtout aux garçons, on dirait. Sur le sable chaud du côté de Marseille, les dragueurs professionnels peuvent à nouveau étreiner leur traditionnelle technique. Stéphane Frangy.
Le fait de ne pas avoir dragué pendant 2-3 mois physiquement, là on a très envie de draguer.
Attention, les beaux gosses sont de sortie, déterminés, apprêtés et impatients. Le confinement n'y est pas pour rien.
Du coup, on en profite cet été. Mais après, on respecte toujours les gestes barrières et la gentillesse.
Et la plage se divise en 2 catégories. D'une part, ceux qui ont trouvé le bonheur.
Ah, les rencontres, elle est là, ma rencontre.
De l'été ?
Non, de la vie.
Et de l'autre, ceux qui le cherchent encore.
Essayer Marseille l'été, ça tue, frère. Ouais, je parle avec tout le monde, des filles et tout.
Maillot de bain et lunettes de soleil tendance, les séducteurs prennent leur temps à la recherche du contact visuel.
Il faut qu'il y ait un ice contact. S'il n'y a pas d'ice contact, ça ne sert à rien d'y aller.
Et vous, mesdames, qu'en dites-vous ?
Vous les Marseillais, vous êtes forts. Hein, vous en faites des tonnes pour rien. C'est rigolo.
La drague à la plage, certes, ça peut être flatteur, mais ce n'est pas toujours une réussite.
Essayez d'être un peu sincère, parce que les disquettes 2020, on les connaît toutes. C'est déjà préparé, la tonation, on entend ça partout. C'est des pros. Bah, après, ils tentent. Hein. Juste un bonjour. Tu vas bien ? Tu t'appelles comment ? Ce serait bien. Et non pas le bonjour, t'as un snap.
Alors un conseil pour vous, messieurs, faites preuve de tenue et de retenue. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Voilà, bon entendeur.
Oui, le temps snap, je sais pas si c'est la meilleure technique d'approche, effectivement.
Merci, c'était le journal de Théo Manval.